ne te présente pas parce que tu n'es plus présente. Tu n'es plus présentable. En ce sens qu'on a, tu n'as plus à être présenté devant ce groupe. Moi, je pense que le carême vous travaille les uns et les autres. Vous avez un esprit mal tourné. Voilà. Okay. Je serai obligé moi de m'absenter un moment.
Je t'en prie.
Je te laisse travailler, puis je reviens vous rejoindre après.
Oui. Hein,
voilà.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude. On va faire une petite heure. Voilà, où je vais vous donner un. Après, on va prendre une petite pause et après, on fera seulement les questions après pour que laisser descendre. Hein. Je pense que c'est plus profitable. Et après, on va voir si on reprend une partie enseignement ou si on passe aux questions, au petit travail de groupe. On va voir. Hein. Il faut s'adapter à ce qui est nécessaire sur le moment. Alors, j'étais passionnée, moi, après toutes ces rencontres qu'on a eues sur l'anthropologie, comment l'homme est construit, comment les pères voient l'homme. J'étais passionnée par cette idée. On explique ce qu'est l'homme maintenant, mais qu'est-ce qu'était l'homme quand il était au paradis? Comment il était? Et nos saints-pères ont cette audace extraordinaire d'expliquer comment l'homme était au paradis. C'est-à-dire que personne ne sait, puisqu'on est tous dans le monde d'après la chute. Et les saints-pères, non, eux, ils savent. Donc, de deux choses l'une, soit on se dit, bon, ils sont totalement fous, ils n'ont rien, c'est une invention pure, soit on se dit, c'est des gens inspirés, ce qu'évidemment, nous orthodoxes, en tout cas, on en est convaincus, et donc, ils ont quelque chose à nous apprendre. Alors, au terme de ça, je vais un peu mieux expliquer pourquoi leur manière de voir est totalement géniale, totalement, bon. Mais maintenant, on est en droit de se poser la question, de se dire, mais d'où ça vient? Est-ce qu'ils ont cette expérience de la vie humaine avant la chute? D'accord. Bon. Donc on remettra ça pour la fin. Je pose la question en l'air comme ça. Alors, quand Dieu crée l'homme, il le crée évidemment, comme nous le savons, dans un paradis de délices. Sa condition humaine naturelle est celle de la pleine communion avec Dieu, avec les hommes et avec toutes les créatures qui sont autour de lui. Et il est naturellement, et c'est un mot que je vais employer plein de fois, naturellement heureux, en harmonie avec toute la création et tout ce qu'il y a autour de lui. Et dès que Dieu crée l'homme, et même avant, l'homme est le sujet de l'amour de Dieu le plus puissant qui soit. Puisque Dieu, dans son monde intra-trinitaire, déborde d'amour, parce que c'est un amour qui déborde d'une personne sur l'autre, et l'icône de la Trinité de Roublev laisse bien une place devant qui est la place de l'homme. Donc quand on regarde Roublev, on a un cercle comme ça, on a les trois anges, mais on pourrait en mettre un quatrième, et c'est l'homme. Et donc quand Dieu crée l'homme, il fait partie de cet amour débordant qui se déverse. Et donc c'est comme si cette félicité absolue du jardin d'Éden, c'était le partage de l'amour fou des personnes trinitaires entre elles, où l'homme entre dans cette péricorèse, qui est une vraie danse amoureuse, où l'amour circule. Et donc, à partir du moment, on dit comme ça par exemple, Père, Fils et Saint-Esprit, il rebond Père, Fils et Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit, Homme, Père, Fils et Saint-Esprit, Homme, Père, Fils, et ça circule. Et dans tous les sens d'ailleurs, après avec des rayons, etc. Bon. Donc, sujet et objet d'un amour, d'une sagesse, d'une providence de Dieu. Et au point que, on le sait, donc Dieu met l'homme au sommet de la création et lui soumet toute chose de la création. Tout est soumis à l'homme, mais soumis à l'homme suivant la volonté de Dieu. Et donc, selon la parole de Dieu, l'homme domine le monde visible et c'est le premier parmi la création. Hein. Voilà. Et il se promène au paradis, au cœur d'un univers paisible, reposant, dispos. Il ne connaît ni la tristesse, ni la douleur, ni le chagrin, ni le besoin. Ni le besoin, vous imaginez? Un homme sans besoin, mais c'est extraordinaire. Bon. Et les pères disent, il était même à la ressemblance des anges. Heureux, sans affliction, sans soupir, sans sueur, sans fatigue, sans paresse. Pourrais le dire à ta femme. Bon, voilà. Donc, aucun obstacle à l'abondance de la terre qui donne tout ce qu'elle a à donner. Et Adam était même doté d'une sagesse si grande, si totale, qu'il était habité, disent les pères, par un charisme prophétique. Et au sein du paradis régnaient les premières créatures, qui étaient elles aussi dans une félicité et une joie sans limite. Et elles puisaient, toutes ces créatures, donc les animaux, les êtres créés, toute la création, elles puisaient la grâce et la bénédiction divine aux sources mêmes des énergies divines. Elles étaient sans passion, sans péché, et toutes ces créatures, dans ce qu'elles vivaient, faisaient voir, montraient en plénitude la bonté royale de la nature humaine. Donc, et de la nature humaine sur terre, mais aussi du ciel. Et toutes ces créatures se réjouissaient des nourritures fameuses, de la beauté absolue des fleurs du paradis, de la vie sans souci, en compagnie des anges. Là, c'est une petite citation de Père Théodore, que tu connais sûrement, de la métropole grecque à Bordeaux.
Auteur,
voilà, j'ai épuisé sur la mort. Voilà. Ouais, voilà, j'ai épuisé un peu là-dedans, parce que c'est vachement beau ce qu'il dit.
Papa Nicolaou,
voilà. Et l'homme était tellement dans cette plénitude qu'il pouvait jouir de la vision de Dieu face à face. Athanase d'Alexandrie dit « Il n'avait rien qui l'empêche de connaître le divin. Sa pureté d'homme lui permettait de contempler sans cesse l'image du Père et le Verbe de Dieu. » Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est... Et je pense que c'est très important. Mais c'est enfin, moi, je le mesure de plus en plus. Et c'est depuis que je vais régulièrement à Maldonne que je le mesure. Parce qu'à chaque fois que je parle avec quelqu'un à Maldonne, à chaque fois, que ce soit un père, une sœur, hein, à chaque fois j'entends « Ah oui, mais dans le monde déchu dans lequel on est, tout de suite intervient le monde déchu. » C'est-à-dire que cette conscience extrêmement forte que nous sommes dans le monde déchu. Et plus on va méditer sur ce monde d'avant la chute, plus on va se rendre compte, premièrement, ce qu'on a perdu, et deuxièmement... Deuxièmement, le chemin. Voilà, parce que ce qu'on a perdu, c'est pour le retrouver. N'oubliez pas, parce que le Christ est mort sur la croix pour ça. Hein. Voilà. Donc, c'est pas qu'on a perdu de manière... on n'est pas là à pleurer les oignons d'Égypte, si vous voulez. D'accord ? Mais on a perdu hein, quelque chose. Adam, dans cet état, demeurait en Dieu, et Dieu demeurait en lui. Et donc, tous les pères, mais tous, vont présenter l'homme qui s'entretient avec Dieu dans le jardin du paradis. Au jardin du paradis comme un ami avec un ami. Donc, il y a une espèce de relation. Et il y a certains pères même qui disent qu'il s'entretenait avec une telle relation de familiarité, dans cette conversation journalière et quotidienne, que les anges étaient stupéfaits. Et que les anges, eux, ils craignaient. Ils étaient là, ils se mettaient un peu en retrait, et ils étaient ébahis, justement, de cette... familiarité entre Dieu et l'homme. Et il vivait, disent les pères, ça c'est un terme qui est très fort, dans un état de jouissance spirituelle intense. Les pères ne cessent pas d'évoquer la douceur, les délices, la joie, la félicité, le bonheur qui s'attache à la contemplation que l'homme a de Dieu. Et du résultat de cette contemplation et de cette relation qui faisait qu'il participait dans cette relation à la beauté même de la vie divine. Et Athanase d'Alexandrie dit « Finalement, l'homme vivait sa vraie vie. » C'est-à-dire celle pour laquelle il a été créé et celle qui constitue la finalité normale de sa nature authentique. Donc, si on veut déjà résumer ce que je dis là depuis 5 minutes, L'homme mène au paradis une vie sans tristesse, sans douleur, sans souci, sans inquiétude, sans maladie, sans peine, sans désir, sans, enfin, le désir spirituel, mais sans besoin, enfin, sans besoin tel qu'on le voit. Il possède les dons de Dieu et la puissance propre qui est en lui, lui vient du Verbe de Dieu. Et il vit la vraie vie et il n'a à craindre aucune maladie, ni extérieure, ni intérieure. Il ne connaît pas les patients. Bon, mais un homme sans passion, mais moi je ne sais pas ce que c'est, quoi. J'en ai jamais rencontré. Dans sa chair, il a une parfaite santé. Dans son âme, une parfaite sérénité. Sa vie est sans révolte et son existence est sans chagrin. Voilà. Bon. Alors maintenant, une fois qu'on sait ça, l'homme est au paradis. Avec tout ça, avec cette félicité, cette harmonie extraordinaire. Et il a un commandement qui est de devenir Dieu. Qui n'est pas écrit dans la Bible. Hein. Mais ça, c'est les pères qui le disent. Donc ce commandement n'est pas écrit dans la Bible. Il faut que tu deviennes Dieu. C'est Saint Basile le Grand qui le dit. Il faut que tu deviennes Dieu. Et Saint Grégoire de Nazianze ajoute, lorsque le Fils immortel eut créé l'homme, il lui donna pour fin d'être lui-même Dieu. Alors, voilà, là, il faut expliquer, bien évidemment qu'il faut expliquer, bien sûr. Mais vous comprenez le problème. Alors, on va expliquer, bien évidemment. Hein. Alors, ces facultés humaines sont toutes créées à l'image de Dieu. Il a à l'origine le pouvoir, comme Dieu, qui est naturel, et il a le pouvoir de s'unir à Dieu pleinement, de manière immédiate. À la seule condition, c'est de rester en communion avec Dieu et de s'ouvrir en permanence à la grâce divine. Là, on commence à basculer, vous allez comprendre. Donc, il a le pouvoir de s'unir pleinement à Dieu, d'être en chemin pour devenir Dieu, mais à une seule condition, c'est de rester en communion avec Dieu, de ne jamais lâcher la main de Dieu, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, et de s'ouvrir totalement à sa grâce et à ses énergies divines. Parce qu'il est quand même créé. Il y a quand même une distance, qui est la distance entre Dieu incréé et l'homme créé. D'accord ? Mais il ne peut devenir Dieu que par grâce. Il ne peut devenir Dieu que par grâce. Ça veut dire qu'il a, l'ordre, entre guillemets, comme disent les pères, de devenir Dieu, mais pas par lui-même, par grâce. Et c'est là où tout bascule. Grégoire de Nice, dans son grand traité extraordinaire sur la création de l'homme, là, que je vous conseille, qui est une merveille, dit que dès l'origine, Dieu est naturellement tourné vers Dieu, l'homme est naturellement tourné vers Dieu, et que ses capacités humaines, ses facultés humaines, sont toutes à l'image de Dieu. Sa liberté, son intelligence, sa volonté, toutes ces puissances désirantes, qui sont très positives hein, quand elles sont bien orientées, toutes ces facultés, tout cela reproduisait intégralement la charité même de Dieu. Inouï. Et dans sa nature même créée à l'image de Dieu, il possède, écoutez bien, toutes les vertus. Ça, c'est très important. Et il possède toutes les vertus de manière naturelle. Et ça, c'est très important parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Vous savez, quand on dit toujours qu'il faut acquérir les vertus, zéro pointé. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'elles sont dans sa nature, elles sont inscrites dans sa nature. On va y revenir. Hein. Si j'oublie, en passage, vous me rappellerez. Grégoire de Nice dit, c'est à l'image de Dieu que l'homme a été fait, ce qui revient à dire, ce qui équivaut à dire, Dieu a rendu la nature humaine participant de tous ses biens, de tous les biens de Dieu, et donc, en nous, sont toutes sortes de biens, toutes vertus, toute sagesse et tout ce qu'on peut penser de mieux. Bon, c'est traduit du grec, donc bon, peut-être il y a quelques imperfections de traduction, mais c'est le sens. Saint Jean Damascène, écoutez bien. D'abord, Isaac le Syrien. La vertu est naturellement dans l'âme. Donc cette nature, elle est belle, quoi. Elle est magnifique, cette nature. Hein? La vertu est naturellement dans l'âme. Et Jean Damascène le dit autrement, les vertus sont naturelles à l'homme. Et donc, pour conclure ce petit morceau, c'est de dire que finalement, les pères vont affirmer l'identité absolue entre l'état de nature, l'état d'Adam au paradis et l'état de vertu. Et Isaac le Syrien dit, la vertu est naturellement la santé de l'âme. La vertu est naturellement la santé de l'âme. Donc l'homme est naturellement en santé, naturellement en vertu, et naturellement dans la jouissance paradisiaque que Dieu lui offre au paradis. Et là, on va expliquer un peu ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Si ces vertus en l'homme lui sont naturelles, ça signifie bien qu'elles ne lui sont pas surajoutées. Et là, on a la clé. Ces vertus ne sont pas surajoutées. Elles sont naturelles. Mais, et là on rebascule de nouveau sur quelque chose qui est de l'ordre de la liberté divine, humaine, ces vertus qui sont naturelles à l'homme, elles ont un aspect dynamique. Et les pères sont très 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 sensibles à expliquer ça. Elles ont un aspect dynamique dans le sens qu'elles sont en lui de manière naturelle, mais elles sont en lui en potentialité. Il faut ensuite qu'il les mette en acte. Et ça, ça lui appartient. Il doit les mettre en œuvre et les accomplir pleinement, ces vertus de sa nature. Et ça, c'est, on l'avait déjà dit, mais on le redit sur un autre plan, c'est ce que dit René quand il dit que l'homme était tout petit, qu'il était un enfant, et qu'il devait, en se développant, arriver à l'état d'adulte mature. Et donc, dans ses potentialités de sa nature humaine magnifique, qu'elle soit actualisée. Et c'est la raison pour laquelle les pères vont distinguer l'image et la ressemblance. Pourquoi il est dit « Dieu créa l'homme à son image » et puis qu'un peu plus loin, il le créa à son image et à sa ressemblance. D'ailleurs, c'est notre image et notre ressemblance. Et donc, alors ça, c'est très intéressant parce qu'il n'y a que les pères qui font cette distinction entre image et ressemblance. Parce que justement, cette distinction montre que la ressemblance est l'accomplissement de ce que Dieu a déjà déposé dans l'image et son plein épanouissement. Et sa pleine... Voilà, c'est comme un fruit qui arrive à maturité, quoi. Donc on peut avoir un bourgeon, mais il peut rester bourgeon toute sa vie. Voilà. Il faut l'exposer aux énergies divines de manière à ce qu'il soit dans sa totale potentialité. Et le passage, y compris au paradis, donc ce n'est pas seulement aujourd'hui pour nous, y compris au paradis, le passage de l'image à la ressemblance, qui n'était pas faite, qui était en potentialité, suppose donc une participation libre de l'homme et active. Ça, c'est très, très, très important. Et je pense que les pères, là, ils sont très, très précis là-dessus. Ouais, et puis ce qui signifie que... Alors, c'est une question. Est-ce que la vie paradisiaque va dépendre de notre libre arbitre? Est-ce que la volonté humaine a quelque chose à voir avec la vie au paradis? Est-ce qu'elle dépendrait de notre propre volonté? Alors, pour répondre à cette question, et c'est encore le père Théodore là qui m'a inspiré, c'est que tel que le livre de la Genèse nous présente la condition humaine au paradis, on voit bien que la mort était inconnue à la première créature. Adam et Ève ne connaissent pas la mort. Et comme les anges, Adam et Ève écoutaient et entendaient la voix de Dieu. Et dans cette communion affectueuse entre Dieu et sa créature, il y avait une telle circulation, et une telle, comment dire, réception réciproque des énergies divines en l'homme. Et de l'homme, et de Dieu qui écoute et qui rend heureux sa créature. Ah, c'est ça, c'est Persédodore qui dit « Les anges tremblaient, les séraphins et les chérubins n'osaient même pas lever les yeux sur eux, tandis qu'Adam, comme un ami envers son ami, parlait avec Dieu. » Voilà. Donc les anges tremblent, ils n'arrivent pas à lever les yeux sur les créatures, sur rien, tremblent devant Dieu et Adam, lui, à l'aise avec son créateur. La mort ne guettait pas un instant, le corps de l'homme, pas un instant. Mais, et Père Théodore le dit bien, comme on l'avait dit dans les fois précédentes, l'homme n'était pas immortel et incorruptible, par nature. Vous vous souvenez, on l'avait déjà dit, je le redis, c'est très important. Dieu créa l'homme, et c'est Père Théodore le confirme encore une fois, ni immortel, ni mortel, mais capable de recevoir soit l'un, soit l'autre de ces deux états. En fonction de quoi? En fonction de son libre arbitre. Parce que Dieu crée l'homme libre, indépendant et autonome dans un certain sens. C'est-à-dire, c'est une créature à lui-même. Il n'est pas avec une ficelle. Voilà. Dieu le veut libre. Et donc, il lui donne toutes les possibilités. Donc, il y a l'immortal et le mortel, tu choisis. Mais, a priori, c'est l'immortel qui gagne. Tant que cette relation est là, comme le livre de la Genèse nous l'indique. Les énergies divines circulent, c'est l'immortalité, c'est évident. C'est seulement après qu'on se dit « Ah, mais il y avait le choix, en fait. » Et c'est pour ça que l'épreuve du commandement est très importante. C'est que l'épreuve du commandement éprouve la liberté. Quand Dieu dit « Tu ne mangeras pas de ça, tout tu manges, mais pas celui-là », il éprouve la liberté. Et c'est dans l'épreuve de liberté que l'homme peut vraiment poser un choix. Si je n'ai pas de liberté, je ne peux pas choisir. Quand j'étais enfant, ma mère, elle me disait « Tu fais ceci, tu fais cela », je n'avais pas de liberté, je faisais. Et nous tous, à 2 ans, 3 ans, on faisait tous, quoi. Jusqu'au moment où on prend sa liberté. Et on dit oui ou non. Et c'est là où on grandit, c'est là où on passe à l'âge adulte, précisément. Alors, on sait qu'il y a des enfants qui roussent pas, etc. On sait bien. Mais justement, on est après la chute. Ça ne devrait pas. Voilà. Parce qu'il devrait y avoir cette communion naturelle et surtout cette confiance. Pourquoi on roussepète? C'est parce qu'on a perdu la confiance. On a perdu la confiance que vos propres parents ne vous veulent que du bien. Et c'est normal qu'on ait perdu la confiance, parce qu'on ne sait pas qu'ils nous veulent que du bien. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils sont dans un monde de chute. Donc vous voyez le sac de nœuds, quoi. C'est le chat qui se mord la queue. Basile le Grand explique, nous possédons l'image par la création, nous acquérons la ressemblance par notre volonté. Et c'est très très puissant, ça. Nous sommes nés à l'image de Dieu, donc c'est naturel, c'est inné. Par la volonté, se forme en nous, peu à peu, notre être à sa ressemblance. Il y a une sorte de formation, un peu comme quand on peaufine une statue, quand on est sculpteur, ou je sais pas moi, quand on est artiste. Voilà. Vous voyez, c'est petit à petit, on accouche de soi-même. Dans cette ressemblance de Dieu, en ayant de nature l'image. Et ça veut dire que c'est notre action, donc notre volonté, notre libre arbitre, mais aussi notre action. Et l'action, c'est le moteur, enfin, je veux dire, c'est le désir qui actionne, qui est le moteur de l'action pour un homme. Donc c'est le désir aussi d'avancer, et d'avancer à la ressemblance de Dieu pour être toujours plus proche de lui. Et les pères disent, si en nous créant, le Seigneur n'avait pas pris à l'avance la précaution de dire « Créons à l'image et à la ressemblance », il ne nous aurait pas gratifié de la puissance de devenir à la ressemblance. Et ce n'est pas par notre propre désir et par notre propre pouvoir que nous aurions acquis la ressemblance. Donc il y a un pouvoir de l'homme de pouvoir acquérir la ressemblance. Mais je trouve ça impuissant, mais c'est... On n'est pas des marionnettes. Dieu ne tire pas les ficelles comme ça avec nous. C'est quand même drôlement... Ça veut dire qu'on est vraiment partenaire de Dieu, vraiment en vis-à-vis de Dieu, vraiment une créature, une personne. Personne authentique, quoi. Et donc, puisqu'il nous crée en puissance dans la possibilité d'être dans la ressemblance de Dieu, il nous permet qu'on soit des artisans de cette ressemblance, de notre propre ressemblance, et que par conséquent, c'est les pères qui le disent toujours, que nous revienne la récompense de notre travail. Là, on rejoint le Zrutavot de ce matin. La récompense, c'est-à-dire on a un mérite. C'est que si au terme on arrive à une ressemblance, c'est parce qu'on l'a cherché. On a mis toute notre puissance désirante vers cette ressemblance. Et donc, encore une fois, on n'est pas tout fait. Et c'est tant mieux. Nous ne sommes pas comme des objets sortis de la main du potier, objets inanimés, ou comme une peinture toute faite, inerte, et que le résultat de la ressemblance tourne à la louange d'un autre. Lorsque tu vois le portrait de quelqu'un conforme, photo conforme au modèle, tu loues le portrait, ou pas, ou tu loues celui qui a fait le portrait. Tu dis, celui-là, c'est un bon peintre, hein. Mais le portrait, Et bien Dieu, il dit, non, moi je veux qu'on loue le portrait. Je ne sais pas si vous voyez. C'est très très grand, quoi. Dieu s'efface dans son œuvre de création pour que l'homme soit tellement acteur de la ressemblance avec Dieu que tous ceux qui vont voir à quel point il ressemble à Dieu, le loup, lui, n'est pas le créateur. Vous avez vu l'humilité de Dieu ? C'est ce que disent les pères, hein ? Je n'invente rien, moi. C'est ce que disent les pères. Afin que ce soit moi l'objet d'admiration et non un autre. Il m'a laissé le soin de devenir à la ressemblance de Dieu. En effet, par l'image, je possède l'être raisonnable et je deviens à la ressemblance en devenant chrétien. Grégoire de Nice, toujours dans cette très beau traité sur la création de l'homme. Et alors là, c'est très intéressant, c'est là où on voit que les pères sont vraiment chrétiens, ce qu'on savait, parce que si on est chrétien, c'est grâce à eux. Donc. C'est là où, pour eux, et c'est là où on voit qu'ils résonnent vraiment dans le monde déchu dans lequel on est, que de toute façon... Voilà, même s'il nous explique ça de manière magistralement belle, il l'explique à partir du monde déchu dans lequel on est. Donc forcément, ils disent la ressemblance est devenir chrétien. Pourquoi ? Parce que, en dehors du Christ, l'homme n'est pas vraiment pleinement homme. On met des guillemets, hein, parce qu'on est d'accord qu'on est tous des hommes. Hein, bon. Mais il faut le comprendre dans le mystère de l'Église et de ce que les pères nous enseignent. Hein. Il faut bien, Il faut réajuster hein, ce qu'on entend. Parce que s'il n'est, il ne serait pas pleinement homme, parce qu'il vivrait en deçà de sa nature. Il serait amputé d'une partie de lui-même, parce qu'il demeure dans l'état d'aliénation. Et là, là on voit qu'il résonne, les pères, en, dans l'idée du monde déchu. Et donc, pour les pères, c'est seulement si on devient par adoption fils dans le fils que nous devenons l'homme intégral, l'homme parfait dont on a déjà parlé, dont Irénée nous parle tout le temps, et qu'on retrouve notre nature authentique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a de vraie nature humaine, comme on l'a dit depuis le début, il n'y a de vraie nature humaine qu'unie à Dieu, que dans une communion à Dieu. Or, celui qui a vécu par excellence la communion absolue avec Dieu, c'est le Fils. Puisqu'il est Dieu-homme. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre comme ça. Et donc, forcément, cette communion que lui vit dans sa personne et dans ses deux natures, c'est à ça qu'on est appelé. Donc, forcément. Forcément, pour les pères, il n'y a que cette solution. Et si... Pour nous, il n'y a aussi que cette solution, entre guillemets, c'est parce qu'on est chrétien. Pour nous, enfin pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Peut-être pour vous, mais pour moi, il n'y en a pas d'autre. La seule manière de vivre vraiment cette béatitude et cette félicité, c'est ça. C'est de retrouver cette communion au Père à travers le Christ qui lui-même nous enseigne puisqu'il est devenu homme. Et qui nous montre comment on est homme qui devient Dieu. Bien que ce soit lui, que ce soit un dieu qui est devenu homme. Il a fait l'inverse. Il est descendu, il nous faut comment ? Mais, vous voyez, c'est la même idée. Et que cette... Donc, les pères parlent presque d'une assimilation à Dieu. Donc, cette nature humaine parfaite dans l'union parfaite à la nature divine, telle que le Christ la vit, ne se trouve accomplie parfaitement qu'en lui. Mais il permet au fait que l'homme peut réaliser cette parfaite assimilation à la nature divine. Parce que, par nature, l'homme est théanthropique. Un mot un peu barbare, qu'on va mettre entre guillemets. Théanthropique, c'est devenir, en langage un peu plus clair, divino-humain. L'homme est divino-humain par nature. Et les pères vont très loin, et ça devrait nous faire réfléchir. Ils disent, s'il n'est pas divino-humain, c'est-à-dire que si l'homme n'est pas homme-dieu, dans le sens qu'on a expliqué, c'est-à-dire Dieu par grâce, c'est-à-dire Dieu parce que Dieu l'attire, hein, et pas parce qu'il va se faire Dieu de manière autonome et tout seul, s'il n'est pas homme-dieu à la ressemblance du Dieu-homme, il n'est même pas homme. Parce que l'homme qui est défini par lui-même, indépendamment de sa relation à Dieu, inscrite dans sa nature même, est un être non humain. Il n'y a pas de nature humaine pure, l'homme est homme-dieu ou il n'est pas. Alors là, on pourrait se dire, quand même, on pourrait se révolter. Mais si on réfléchit bien, un homme qui n'arrive pas à être en communion avec Dieu, eh bien, il devient comme les barbares qui ont tué avant-hier, hier. Et donc, il devient pire qu'un animal. Parce qu'un animal, il ne fait pas ça. Un animal, s'il est prédateur, c'est parce qu'il a besoin de se nourrir. Mais il n'est pas dans cette haine et dans cette gratuité de violence comme ça. Ça n'existe pas. Donc, quand on dit qu'il n'est même pas homme, c'est qu'il est sous-homme, c'est-à-dire qu'il est même sous l'animal. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Ceci étant dit, même ces barbares qui tuent, ils ont l'image de Dieu en eux. Donc, il ne faut pas trop les cataloguer trop vite. C'est-à-dire que les actes qu'ils posent montrent, effectivement, qu'ils n'arrivent pas à faire laisser émerger en eux la lumière divine à l'intérieur. Mais si on les aide, s'ils veulent, il pourrait. Donc, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est jamais perdu. C'est-à-dire que même le pire des monstres, C'est jamais perdu. Il a toujours cette flamme en lui. Mais il faut simplement... faut qu'il y aille, quoi. Et que personne ne peut le faire à sa place. Ça, c'est très important. Et le père Déodore dit, « Pour nous, qui éprouvons la vie après la chute, ce mystère demeure incompréhensible. » Voilà, on n'y comprend rien, ce truc-là. Mais c'est vrai, hein. Moi, j'y comprends à peine plus, quoi. C'est un grand mystère. On ne peut pas concevoir l'état et le climat de la grâce immense qu'on avait au paradis, qui régnait dans le cœur d'Adam et Ève. On ne peut pas se représenter et imiter la vie angélique et paradisiaque. C'est quasiment impossible. Pourquoi ? Parce que nous sommes, dès le jour de notre naissance, nous avons comme unique compagnon de vie l'urgence illimitée de nos besoins. Le drame tragique de la condition humaine nous est imposé.
Tu peux le redire, ça ?
C'est une phrase de Père Déodore, ça. Le drame tragique de la condition humaine nous est imposé. Alors maintenant, avant d'essayer de comprendre la catastrophe cosmique qu'a été la chute, je voudrais faire une deuxième petite réflexion. Pourquoi, finalement, quand je vous dis ça, à la fois ça nous paraît incompréhensible, mystérieux, énorme, et à la fois on se dit, mais quand même, ça doit être ça, quoi. Ça doit être ça. On voit bien qu'il y a quelque chose de ça. Alors, comme je vous disais au début, nous, on est convaincus que nos saints-pères sont inspirés, donc on n'a pas trop de doutes. Mais on se dit, mais comment ils ont eu cette inspiration ? Alors, je voudrais maintenant vous lire, ça va être peut-être un peu... Je vais faire quelques coupures, peut-être un peu long. Qui est-ce qui a écrit ces quelques phrases de la Genèse qui ont donné de tels midrashim pour nous chrétiens, que les pères ont tellement développé dans ce sens ? Qui a écrit ces quelques versets de la Genèse ? Qui a été inspiré pour écrire un truc pareil ? L'image, la ressemblance, le paradis, l'harmonie.
Mais on
ne
sait pas qui a écrit.
Non, on ne sait pas qui a écrit, mais enfin, on sait un minimum de choses. Voilà, alors certains disent Moïse. En tout cas, c'est le peuple qui a reçu la Torah. D'accord ? Donc, c'est le peuple choisi. Alors, on va voir ce qu'ils disent, eux. Moi, c'est de comprendre ce qu'ils disent pour voir si ça fait écho. Alors, j'espère retrouver mon dossier. Alors ça, oui, ça c'est pour après, c'est pour la chute. Voilà, ça doit être ça. Le Saint béni soit-il. Alors, ce Midrash, ça s'appelle le Midrash Rabba, Genèse Rabba. Ce Midrash a été compilé et composé de manière terminale au 5e siècle. Mais toutes les traditions qui sont dans ce Midrash sont bien antérieures et peut-être même antérieures à l'heure chrétienne.
Midrash, c'est quoi ?
Midrash.
C'est quoi ?
J'explique.
Ah.
Quand les pères nous parlent de ce qu'ils pensent, eux, par rapport à ces versets des deux premiers chapitres de la Genèse, tout ce que je vous dis, c'est un midrash. C'est-à-dire un commentaire inspiré de ces textes. Alors, nous, on n'emploie pas ce mot. Bon. On dit une interprétation, on dit une inspiration, on dit c'est ce que les saints-pères ont dit, voilà, ça nous suffit, c'est très bien. Les Juifs, ils appellent ça Midrash. Ok ? Bon, je simplifie parce que je ne vais pas faire un cours sur le Midrash. Comme ça se prononce.
D-R-A-S-H.
Comme ça se prononce. C'est H-C-H ou S-H. Alors, ce qui est très important, c'est que ce Midrash, donc, vous savez, les Midrash, c'est une compilation de traditions orales. Donc, au moment où il arrive par écrit, les traditions sont là depuis parfois des siècles. Il a été, au maximum, compilé au 5e siècle. Ça veut dire qu'il est contemporain de tous les pères dont je vous ai parlé, puisque même Isaac le Syrien, il est même encore plus tard. D'accord ? Donc, ça veut dire que ces deux communautés reçoivent, par inspiration, un certain nombre de choses. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est autre chose ? On va le voir. Et on va voir, justement, ce qui va distinguer les chrétiens des juifs, qui sont évidemment de quoi être distingués. Mais qu'est-ce que les pères ont probablement reçu de ces traditions orales qui circulaient et dont on sait qu'elles arrivaient jusqu'à leurs oreilles ? D'accord ? Le Saint béni soit-il. Bon, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, parce que c'est un langage un peu différent, vous levez la main. Hein. Le Saint béni soit-il montra au premier homme un supplément d'affection en le créant à partir d'un lieu pur qui est l'emplacement du temple et en l'introduisant dans son palais, comme il est dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le servir et le garder. Donc, le juif voit le monde comme un palais qui est à l'emplacement du temple. Certains vont même dire que Dieu crée le monde comme un temple. Comme un temple. Et qu'il met l'homme au milieu du temple pour que l'homme soit un loueur, un louangeur, qu'il offre sans cesse toute la création à Dieu. Entre guillemets, Yehuda, le juif, ça veut dire le louangeux, celui qui loue. Comme par hasard. D'accord ? Bon. Mais il le place au jardin d'Éden pour le servir et le garder. Donc les rabbins se posent la question, mais quel travail fallait-il accomplir dans le jardin pour qu'il le serve et le garde ? Tu diras peut-être qu'il fallait qu'il taille les vignes, qu'il laboure le sol, ou encore qu'il mette en gerbe et qu'il moissonne. Mais tous les arbres n'y poussaient-ils pas d'eux-mêmes ? Tu penseras sans doute qu'il y avait quelque autre labeur à assumer dans le jardin d'Éden, comme arroser. Mais il y avait un fleuve qui coulait. Il ne coulait-il pas ? Ne sortait-il pas d'Éden et n'arrosait-il pas le jardin, comme il est dit, un fleuve sortait du jardin de l'Éden pour arroser le jardin. Donc qu'est-ce que c'est ce travail ? C'est génial comme question. Comme d'habitude d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Le protéger et le garder. Le servir et le garder. Sinon, écoutez bien ça, sinon, se consacrer aux paroles de la Torah et garder tous ses commandements. Selon les mots, pour garder le chemin de l'arbre de vie, il n'est d'arbre de vie que la Torah, ce qui exprime, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, Proverbe 3:18. Donc, il y a quelque chose qui est commun, qui est évident. Pour eux, c'est l'idée de garder la Torah, garder les commandements. Pour nous, c'est l'idée d'être en communion avec Dieu. Mais on n'est pas très loin. Parce que si Adam et Ève avaient gardé les commandements, ben, on n'en serait pas là. D'accord ? Et alors, écoutez ça. Adam flânait tranquillement dans le jardin d'Éden comme l'un des anges de service. C'est ce que disent les pères. Le Saint béni soit-il dit, « Je suis unique dans mon monde et l'homme est unique dans son monde. Il n'y a devant moi ni fructification ni accroissement et l'homme connaît la même situation. » Par la suite, les créatures pourraient se dire, en désignant l'homme, « Puisque celui-là n'a devant lui ni fructification ni accroissement, c'est lui qui nous a créés. » C'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Selon le verset, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit assortie. Rabbi Yehuda dit, ne dis pas une aide qui lui soit assortie en face de lui, kenegdo, mais dis l'enegdo contre lui.
Il est quoi ?
Non, mais je parle pour les hébraïsants là. Donc, il joue, c'est un jeu de mots en hébreu. Une aide qui lui soit assortie, kenegdo, en face de lui, kenegdo, en face de lui. Et l'enegdo, c'est un mot hébreu, c'est pour dire contre lui. Donc, c'est ou en face ou contre. Tout contre. Si l'homme est méritant, elle sera une aide pour lui. S'il n'est pas méritant, elle sera contre lui. C'est très inspirant quand même. Hein.
C'est l'épée d'Amoclès.
Très inspirant. Ça veut dire encore une fois que l'homme est responsable. Et que l'homme et la femme sont responsables ensemble de l'harmonie dans la famille. Et de recréer dans la famille l'harmonie perdue du paradis. C'est puissant comme pensée quand même. Alors écoutez ça, ça c'est un truc de fou, ça c'est typiquement midrashique. Quand la terre entendit ce discours de Rabbi Yehuda, elle frémit et se mit à trembler. Elle supplia son créateur, « Maître de tous les mondes, je n'ai point la force de nourrir le troupeau humain. » Le Saint béni soit-il lui répond, « Ensemble, nous nourrirons le troupeau humain. » Et ils se partagèrent la tâche. La nuit pour le Saint béni soit-il et le jour pour la terre. Que fit le Saint béni soit-il ? Il créa un sommeil de vie. L'homme se couche, s'endort, et c'est là sa nourriture, son remède, sa vie et son repos. Bon, on va sauter tout ça. Alors ensuite, au moment où il crée la femme, Dieu amène la femme, comme on le sait, en face de l'homme. Tous les anges, donc il y a un mariage, tous les anges se mettent autour et vont faire la fête du mariage. Et ils vont préparer le dénuptial. Et Dieu offre l'onyx, la chrysolite, la sardoine, la topaze, la jaspe, le saphir, l'escarboucle, et l'émeraude et l'or. Ce sont tous les dénuptiaux. Et les anges jouent du tambourin et dansent au son des flûtes. Comme il est dit, des tambourins et des flûtes œuvraient avec toi. Ils allaient et venaient, les anges, devant l'homme, comme des garçons d'honneur. Et le Saint béni soit-il était semblable au premier chantre. Et que fait d'habitude le premier chantre ? Il se tient sous le dais nuptial et il bénit la mariée. De même, le Saint béni soit-il bénissait Adam et Ève, comme il dit, Dieu les bénit. Voilà. C'est le début du Midrash sur cette question. Bon, ça fait une heure que je parle, je vais m'arrêter. Voilà, vous voyez un peu l'ambiance. On est bien là-haut, hein. Donc,
pour, j'allais dire par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ça me fait venir deux aspects. D'abord, c'est le premier miracle du Christ, c'est les noces de Cana. Donc, on retrouve cette réconciliation à travers l'amour, à travers le Christ et le vin qui est apporté. Donc, moi, ça fait résonance par rapport à ce. Et c'est la mère, enfin, c'est la mère, c'est Marie. Qui l'envoie au monde aussi, hein, puisque de femme, l'heure n'est pas venue, faites tout ce qu'il vous dit. Voilà. Ça, je trouve ça aussi très beau par rapport à l'histoire des anges, des serviteurs, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, cantique des cantiques, bien évidemment.
Bien sûr.
Bien évidemment, qui là, c'est le grand poème d'amour entre l'homme et la femme, avec le masculin et féminin. Donc. Là, on retrouve peut-être ces saveurs paradisiaques dont tu parlais au début. Quoi.
Mais vous voyez, ce langage très imagé du Midrash, il ne faut évidemment pas le prendre au pied de la lettre, on n'est pas bon. Mais je pense que c'est justement, c'est comme s'il fallait sentir les odeurs, voir les lumières, voir les couleurs. Voilà. Il y a quelque chose qui est très concret et qui, dans cette concrétude, nous conduit à réaliser quelque chose du mystère. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut.
Alors, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est à cette, entre guillemets, nostalgie que nous avons au paradis. Et c'est vrai que quand tu en parles, moi, je ne peux pas m'empêcher de raisonner quelque part au plus profond de moi, comme si je me rappelais de quelque chose. Je le vis comme ça. C'est peut-être un délire psycho-machin, hein, mais. Je ne peux pas m'empêcher d'être sensible à ça et de raisonner vraiment au plus profond. Je ne sais pas à quel endroit de ma
personne. Moi, je suis convaincue qu'on se rappelle.
Voilà.
Donc, je suis convaincue que malgré les milliards d'années qui se sont passées depuis Adam et Ève, et donc une répercussion, on va le voir dans la deuxième partie, de la chute, qui l'état d'aujourd'hui est bien plus grave qu'il y a encore 2000 ans, quoi. Bien plus grave. Et bien plus grave qu'il y a 5000 ans, qu'il y a 10 000 ans, c'est évident, quoi. Et donc, il y a quelque chose, on porte ce poids d'humanité, hein, on le sent de toute façon, hein, on le sent, quoi. Bon.
Et du coup, par rapport à ce souvenir que nous voilà. avons, il reste quelque chose bon, que nous vivons avec notre foi, qui est un espoir, une espérance.
Une espérance.
Et une certitude, quelque part.
Oui, absolument. Absolument. Oui, ouais, tout à fait. Mais indépendamment de la foi, je pense que tout homme, quelle que soit sa foi, a cette espèce de... Il sent qu'il a quelque chose de divin en lui. Il le sent. Voilà. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il veuille le reconnaître ou pas le reconnaître, le désir en lui est colossal. Voilà. Et c'est ce désir colossal, sans limite, que le monde déchu l'oblige à limiter pour qu'il monte par le haut, pour qu'il sorte de la situation par le haut. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être des trucs sans limite, mais qui finalement se dirige vers la matérialité des choses. Et qui, à un moment donné, la vie va lui faire cogner cette limite. Il a qu'une manière de s'en sortir, c'est de sortir par le haut. Et il le sait. Maintenant, il n'y arrive pas toujours. Il n'a pas les outils, ou il n'est pas assez aidé, ou il n'est pas assez entouré. Enfin, peu importe. Il se trouve que dans le monde dans lequel on est, on voit bien, c'est terrible.
Les conditions qui veulent bien sortir.
Voilà.
Parce que sinon, il n'y a peut-être
plus beaucoup de volonté non plus. Parce que bon, il faut bagarrer, quoi. Il y a toute cette question-là, vous voyez. Mais je pense que... Et c'est la raison pour laquelle, pour nous chrétiens, on a une responsabilité énorme. Parce que nous, on a tous les outils. Tout. Et en plus, on a le Christ incarné. Je ne sais pas si vous voyez, on a tout, 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 tout. On ne peut pas avoir plus. Et donc, notre responsabilité est colossale, parce que si nous, on ne le vit pas, comment on fait ? On est tenu de le vivre. Il faut le vivre. C'est notre vocation de chrétien. Et c'est la raison pour laquelle il y a l'Église, il y a les sacrements, il y a le pardon, il y a toute la l'année liturgique, enfin bon, tous ces outils.
J'aurais aimé que tu approfondisses l'aspect sur la communion. Parce qu'il y a un aspect, alors, effectivement, c'est la responsabilité de chacun, finalement. Enfin, c'est sa responsabilité. D'être sur ce chemin de sainteté. Hein, voilà. Par contre, on ne peut pas le faire seul. Et on ne peut pas renvoyer, j'allais dire, l'individu seul face à cette responsabilité, sinon il y a quelque chose moi, qui me gêne. Je pense qu'il y a, une communion, il y a la communion dans toutes les dimensions. Après, quand tu parlais, là je parlais de choses très très concrètes, parce qu'on voit très bien à contrario, où la chute nous mène, à contrario. Je viens de lire un article, moi, qui m'a beaucoup impressionné sur les enfants à qui on donne des tablettes avant l'âge de 6 ans. Et il y a une nouvelle pathologie qui a été découverte, ils appellent ça l'autisme virtuel. Hein, oui. C'est-à-dire que c'est des enfants qui n'arrivent plus à rentrer, ne serait-ce qu'en relation, je ne parle même pas de communion. Voilà. Donc, il y a des saints chez nous qui disent que le diable arrive par la fenêtre. Hein. Donc, j'aimerais que tu parles aussi de ça, parce qu'on est complètement plongé. Enfin, il y a quelque chose de gravissime qui se joue. Parce que nous, communion, c'est une chose, mais même maintenant, la relation est bien évidemment en danger.
Bien sûr. Alors, là, tout ce que tu me dis, tu le dis à partir du monde déchu. Moi, je t'ai pas parlé de ce monde. Jusqu'à maintenant, je t'en ai pas parlé.
Oui, oui, oui.
Donc c'est clair qu'il va falloir le dire, bien sûr. Mais c'est juste pour dire, voilà. Et que quand le père Théodore dit, bah, finalement, tout ça, c'est incompréhensible pour nous, bah voilà, on est d'accord. Quelque part, c'est... Voilà, on est dans un monde tellement déchu qu'on sait même plus ce que c'est, que, j'ai envie de dire, la communion naturelle. On ne sait plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut tout le temps faire des efforts pour être en communion. Tout le temps. Tout le temps. Et il faut tout le temps prendre sur soi, parce qu'il y en a un, il va vous dire un truc qui va vous déplaire, là, vous avez envie de lui... Puis vous le retenez, enfin bon. Tout le temps, il faut... La communion et la relation est un truc, mais c'est le pire. Mais en même temps, c'est grâce à ça, grâce à elle, à cette relation avec l'autre, avec toute personne qu'on rencontre, que ce soit dans son milieu professionnel, que ce soit peu importe, partout, c'est ça qui va nous renvoyer, justement, qui va nous faire ses limites, qui va nous limiter. Et de deux choses l'une, soit on chute encore plus bas, soit on monte par le haut. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que ce que tu dis, moi aussi, je suis très, très... sensible à toutes ces questions qui sont... Puis avec la bioéthique, tout, enfin, je veux dire, on est dans un monde... C'est tragique, quoi. C'est le drame qui fait boule de neige. Enfin, on est dans un tragique. Mais c'est pour ça que pour nous, chrétiens, on a une responsabilité énorme. C'est premièrement ne pas tomber dans le panneau, ce qui est très difficile, parce qu'on est happé par ce monde, parce qu'on est minoritaire, qu'on le veuille ou non. Quoi. Donc on est pris dans une espèce de réseau de trucs. Il faut faire comme tout le monde et être là avec ces machins. Et puis, tous les enfants ont leur tablette avant 6 ans. Bah, le tien, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas le faire. Enfin, je veux dire. Et donc, il faut résister, résister. Je veux dire. Combien de familles chrétiennes n'ont pas de télévision, par exemple? Ça serait intéressant de compter. Voilà. Bon, mais rien que ça. Mais c'est génial de ne pas avoir de télévision. Parce que tu es libre. Tu vois? Bon. Et, non, mais je veux dire...
Pas Internet et pas de portable, voilà. T'es encore plus libre.
Voilà, t'es encore plus libre.
Et
voilà.
Moins pollué.
Voilà, et moins pollué, bon, etc., etc. Enfin, bon, je dis... Bon. Mais... c'est... Alors, on reparlera tout ça quand on va parler de la chute, et puis du retour, c'est-à-dire comment, quels outils les pères nous donnent pour revenir, entre guillemets, à cet état paradisiaque, parce que... peut-être qu'on peut, on peut s'arrêter sur la pause avec ça. C'est très important, ça. Très important, parce que le texte biblique nous dit donc l'homme chasse. Et c'est garèche en hébreu. C'est vraiment expulse. Il expulse Adam du paradis. Il l'expulse. Okay.
Dieu chasse.
Non, Dieu chasse, pardon. Dieu chasse, oui. Excusez-moi.
On avait compris.
Oui. Et excusez-moi, oui. Dieu chasse. Voilà. Il est très fort. C'est un mot d'arracheté. Et il chasse. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Dieu chasse, mais c'est. Alors, on va le voir tout à l'heure après la pause. Mais ce qui est très important, c'est de savoir que l'office liturgique lui-même nous le dit. Chasser du paradis pour avoir chassé. Donc l'office liturgique, il est carré. Hein. Du paradis pour avoir mangé le fruit de l'arbre. Nous y avons été réintroduits par ta croix. Ô Verbe, comme tu avais donné le paradis à Adam, donne-moi les délices du jeûne, la jouissance de tes commandements. C'est géant, quoi, parce que ça rejoint complètement Midrash en plus. Et donc, finalement, toute la vie humaine, c'est un retour. Entre guillemets, c'est prendre le chemin du retour, c'est le fils prodigue, c'est tout ce qu'on entend dans tout le carême, hein, qui revient vers son père. Mais les pères vont dire, c'est plus que ça. Et c'est pour ça que saint Paul va dire, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Parce que c'est pas seulement on retourne au paradis, mais on va plus loin. Et ça veut dire aussi, c'est ce que les pères disent, c'est-à-dire qu'on entre dans le chemin de divinisation. Et donc, non seulement les portes du paradis sont complètement ouvertes, mais c'est un paradis qui est encore plus paradisiaque qu'il ne l'était.
Ben oui, parce qu'avant la chute, moi j'ai beaucoup aimé la nuance, enfin plus qu'une nuance entre image et ressemblance. Donc, l'image, on comprend bien. Mais quel était le rayonnement de la ressemblance dans le Gan Eden? Et c'est peut-être qu'après la chute qu'il y aura cette possibilité-là.
Oui, elle y était déjà.
Elle était en
potentialité. Elle n'a pas réussi à se développer. Et maintenant, oui.
J'ai bien compris.
Ouais. Mais une chose très importante que je n'ai pas dit, c'est que les rabbins ne font aucune distinction entre image et ressemblance. Aucune. Et donc là, c'est là où on voit que là, on est très différent parce qu'elle est fondamentale, cette distinction. Pour nous, pour les pères, elle est fondamentale.
Pourtant, dans le texte hébreu, c'est il a fait l'image capable de ressemblance, la traduction.
Alors, ouais, je traduisais par vers la ressemblance. Est-ce que. Du coup, j'ai oublié en hébreu comment c'est.
Attends, ben, je vais te dire, je l'ai là.
Pour moi, c'était capable de ressemblance. Ou donc, c'était une dynamique qui avait cette
mouvement actif dont elle parlait, justement.
Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kedmotenu.
Il y a quand même
une capacité.
Comme la ressemblance.
Comme la ressemblance.
Ouais. Donc il y a bien un mot.
Et on pourrait même traduire, ça serait pas faux de traduire selon la ressemblance.
Voilà, c'est ça.
selon. Moi, c'est ce que je traduis. Hein. Moi, j'ai fait ma traduction propre. Là. Faisons un homme à notre image, selon notre ressemblance.
Sous le cadre, c'est la main, c'est la capacité. Donc, moi, j'avais entendu des commentaires capables de ressemblance. Ouais, donc, ça se fait dans cette dynamique.
Oui. Il n'y a pas le P final, c'est K. C'est une préposition.
Oui, oui, mais bon, elle peut, parce que si tu veux, le CAF, si tu veux, c'est la forme du CAF, si tu veux.
Mais c'est pour l'inscription dans une dynamique.
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, le texte, en plus, le texte grec, alors le texte hébreu, alors que les pères, ils lisent en grec. Et qu'en grec, on a, alors voilà, peut-être, c'est kat et kona, kai kat, homonoi, homoiosis. Donc, kat et kona selon l'icône, kat, kai, kat, et selon homoiosine, la ressemblance. Donc, selon l'image et selon la ressemblance. Donc, c'est deux fois selon. Donc, au contraire, le grec, c'est comme s'il raplatissait, entre guillemets. Or, même avec le grec, les pères, ils ont compris, alors que les rabbins ne l'ont pas interprété, alors que tous leurs textes le montrent. Premièrement, ça montre, ça c'est très important, ça je le dis aussi dans ma thèse, c'est que finalement, même si le texte grec semble, pour certains, loin du texte hébreu, souvent, les pères retrouvent l'hébreu, nous redonnent quelque chose de l'hébreu dans leurs commentaires. Donc en fait, et Père Placide, il le dit très bien dans sa préface au son psautier, là, il explique ça très bien. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est une question, parce que c'est un travail que je suis en train de faire en ce moment. Est-ce que c'est pas justement parce que les pères ont donné une énorme importance de la place de libre arbitre et de la volonté où l'homme n'est pas tout fait comme un objet pour aller vers la ressemblance, que du coup les rabbins ont mis ça complètement de côté parce que c'était une époque où il fallait se distinguer. Et durant cette époque, il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas les développer ici parce que bon, c'est un peu long. Durant cette époque, il y a eu tellement de crispations identitaires les uns vis-à-vis des autres que ce qui pouvait éventuellement appartenir à la tradition juive a été laissé tomber par la tradition juive et est passé chez les chrétiens. Voilà. Et donc, on a l'impression que ça ne leur appartient pas, puis finalement, c'était avant. Enfin bon, c'est un peu... Voilà, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais ça, c'est... J'ai beaucoup, beaucoup d'exemples, mais bon, on ne va pas les développer.
La ressemblance à Dieu d'Adam, enfin, c'est au début... Moi, je la vois plutôt qui a commencé, puisqu'il a commencé à nommer tous les êtres vivants. Et donner un nom, c'est une puissance.
Absolument, absolument.
C'est comme s'il les a créés, parce qu'ils absolument. Étaient innommables.
Absolument.
Et il les a nommés.
J'avais prévu d'en parler après,
c'est
bien.
C'est déjà une partie de la ressemblance. Oui,
tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Et c'est cette faculté, finalement, même si... Si l'homme n'a pas la faculté de créer, entre guillemets, ex nihilo, il a la faculté de créer à partir de ce qui est déjà. Voilà. Et nommer, il y a déjà quelque chose. Et si vous remarquez bien, Dieu ne reprend pas la nomination de l'homme. Ça veut dire que, non, mais ça veut dire que l'homme nomme de manière à bon escient et avec discernement. Un loup, c'est un loup. Un chat, c'est un chat. Un lion, c'est un lion. Une girafe, c'est une girafe. Voilà. Il ne se trompe pas. Donc, ça montre bien qu'il a cette capacité et qu'il est en pleine possession naturellement de lui-même. Quoi. C'est... Parce que sinon, Dieu l'aurait corrigé. C'est logique. C'est... Bon, allez, on va prendre la pause.
Par contre, quand tu as évoqué la possibilité d'être mortel ou immortel, moi, ça m'a fait penser à ce passage où Dieu nous dit « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Et ça fait
c'est tout à fait ça.
Fait un écho de ça, de ce paradis-là. Enfin,
bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc ce passage qu'elle note, c'est Deutéronome 30.
Quand même du paradis.
Ah bah oui, monsieur. Hein monsieur.
Moi j'ai un tout petit télescope. Hein. Tu parlais de devenir Dieu par grâce et après tu parles un peu plus loin de ce libre arbitre et de cet effort. J'arrive pas à les lier.
D'accord. Alors, très très bonne question. En fait, on n'est pas une marionnette. Hein ?
Ah oui, tu disais faire pause d'abord.
Oui, bon, on va la faire après, on va répondre. On n'est pas une marionnette et on n'est pas un objet tout fait et on n'est pas un objet inerte. Notre libre arbitre fait partie de la relation. C'est-à-dire que Dieu attend de nous qu'on coopère, non seulement à nous-mêmes, mais à l'univers entier. D'ailleurs, l'univers entier n'est pas parfait. C'est pour ça qu'il y a Shabbat. Shabbat, c'est la suspension pour que l'homme par face, par face. Par face, la création. Par face, ouais. Ok, ça c'est subjonctif en français, c'est toujours compliqué. Allez, notre agrégé de l'être.
Rendre parfaite la création.
Voilà, bon.
Parfait.
Parfait. Parfait, oui. Bon, parfait la création.
Parfait.
Troisième groupe. Rendu parfait, allez, bon.
C'est parfait, oui.
Peu importe. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette idée où l'homme est participant, où la volonté de l'homme entre en jeu, c'est par rapport au fait que l'homme est un partenaire de Dieu, il est co-créateur quelque part de la perfection de la création, à partir de la création, parce que lui ne crée jamais ex nihilo, bien évidemment, et de ce point de vue-là, et de lui-même. Entre parenthèses, une petite parenthèse, je ne l'ai pas là sous les yeux, je vous le cite de mémoire, il y a un midrash dans je ne sais plus lequel, c'est dans ma thèse, bon, vous aurez l'occasion de le lire plus tard, où Dieu dit, si vous suivez ma Torah et mes commandements, je vous considérerai comme si vous vous êtes créé vous-même. C'est fabuleux, quoi. C'est extraordinaire. Et c'est sur un jeu de mots en hébreu. Enfin, c'est un truc absolument fabuleux. Moi, j'avais la chair de poule quand j'ai trouvé le midrash. Donc, mais pas créé ex nihilo, c'est créé dans le sens où se parfaire, en fait. Parfait, hein, voilà. Donc, oui. ça montre bien cette même dynamique, en fait. Je peux vous dire, je l'ai pas loupé, ce midrash, je l'ai mis tout de suite. Parce qu'il est tellement fort. Et ça rejoint en plus cette idée de ressemblance. Bon, bref. Et donc, tout ce qui concerne l'agir de l'homme, le fait que l'homme a une participation à donner de lui-même dans sa liberté, ça concerne ça, cette collaboration avec Dieu. Tout ce qui est de la grâce, c'est quand l'homme reçoit la possibilité d'être à la ressemblance. Et la possibilité d'être immortel.
Le fameux supplément.
Non, c'est pas un supplément. Non. Parce que c'est pas un supplément, c'est que c'est non, ça n'a rien à voir, justement. Parce qu'on n'est pas dans l'ordre de la nature, là. On est sur un autre plan. Attends, comment je vais essayer d'expliquer ça? L'homme est dans la relation avec Dieu. Il peut choisir de ne plus être dans cette relation. C'est sa liberté. Mais sa liberté, c'est de choisir d'y rester. Il est au départ automatiquement dans la relation. Après, il peut dire « j'ai plus envie d'y être ». Et le fait qu'il puisse dire « j'ai plus envie d'y être », ça veut dire qu'il peut dire « je peux de nouveau y être ». Il peut choisir à tout moment. C'est ce choix-là que Dieu a besoin de l'homme pour tester sa liberté. Et donc, quand Dieu lui donne, par exemple, l'immortalité par grâce, c'est le fait que ce n'est pas l'homme qui lui-même se donne l'immortalité. Cette idée-là. C'est-à-dire qu'il la reçoit. Donc il y a tout un... Et ça, c'est très important parce que tous les pères... Parce qu'il y a tout derrière, toute l'histoire du péché, de la grâce, etc. Il y a toute une théologie très importante là-dedans qui est... Tout est donné par Dieu. Tout. Absolument tout. C'est gratuit. Et l'homme doit tout faire pour y parvenir. Voilà. Mais c'est d'abord toujours donné, d'abord, c'est-à-dire les énergies divines, elles descendent, voilà. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elles y sont. Mais l'homme peut fermer son cœur, elles peuvent pleuvoir, et puis ça n'atteint personne. Voilà. On n'est pas remué aux tripes, parce qu'on a fermé. Et donc notre liberté, c'est de dire oui, non seulement je vois que elles descendent, mais vas-y quoi. Et vas-y, ça veut dire je les reçois, mais je ne les reçois pas justement comme un objet inerte. Je reçois pour en faire quelque chose. Donc, c'est, je pense que c'est ça. Si quelqu'un veut me corriger,
c'est notre coopération. En fait.
C'est notre coopération. Ouais. Mais tout vient de Dieu, quoi.
Mais tout vient de Dieu, mais il attend la nôtre.
Il attend la nôtre. D'ailleurs, au point que, c'est pour ça que plus on avance dans la vie spirituelle, plus les épreuves sont dures. Et Abraham, c'est le type même. L'épreuve la plus dure, c'est la dernière. Donc, Abraham a 10 épreuves. La plus dure, c'est quand il doit sacrifier son fils. Et c'est pour ça que, moi je me souviens d'une fois où je suis allée voir Mary Pandia, j'étais dans un état, je me dis, mais je crois que le plus dur est passé, elle me regarde, me dit, je crois que le plus dur est devant. Attends, je me suis effondrée. Bon, c'était à l'époque, j'étais encore un peu fragile. Maintenant, je peux rire. Mais... Bon, Mary Pandia, c'est la supérieure du monastère de Solan. Pour toi qui sais. Enfin bon. Et donc, c'était extraordinaire parce que, en fait, c'est une parole qui m'est restée et qui est très juste. Mais, comme chaque épreuve nous fortifie, on est toujours plus fort pour accueillir l'épreuve qui est plus dure. Donc de toute façon, il n'y a pas de problème, enfin, normalement. Voilà. Ceci étant dit, pourquoi il y a ces mises à l'épreuve ? C'est parce que ces mises à l'épreuve vont nous donner toujours la possibilité de rechoisir. Et de redire, oui, je valide ma relation avec toi. Ce n'est pas un truc habituel où on ronronne. Alors, on ronronne tranquillement, bon, tout va bien. Non. Voilà. Parce que de deux choses, une, soit tout va bien, et puis finalement, ça dégringole. Soit tout va bien, il y a quelques épreuves, il y a quelques tournants, quelques obstacles à passer, justement pour fortifier. Parce que, justement, le truc très important, c'est que la relation est toujours en dynamique. La relation humaine, comme la relation avec Dieu. Au point que Grégoire Denis va dire, bon, vous connaissez Grégoire de Nazianze qui dit, hein, de commencement en commencement jusqu'à des commencements qui n'auront jamais de fin, mais Grégoire Denis, il dit, nous n'atteindrons jamais la ressemblance à 100%. Nous serons toujours, jusqu'à la fin de l'éternité, vous savez très bien que l'éternité, il n'y a pas de fin, dans cette dynamique d'être dans la communion avec... Et on sera toujours... Ben heureusement qu'on a dans le désir, sinon on est arrivé, puis voilà, on est là, ah, ça y est, je suis ressemblant, tout va bien. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, quoi. Donc il y a cette dynamique qui est fabuleuse, quoi.
Bon. Alors que la communion, elle était totale, tu as dit.
Oui, la communion est totale, mais
et
dans.
Elle s'ennuyait pas à ce moment-là.
Mais alors, elle était totale. Il y avait pas quelque chose à
attirer. Oui, la communion est totale en le sens où il y a pas de friction dans la relation. Oui. Mais la ressemblance est toujours à acquérir. D'accord. Donc de toute façon, tu vois, c'est une certaine totalité du présent. Je veux dire, quand on vit un moment, je veux dire, ça nous arrive, hein, en famille ou avec des amis. Voilà, on vit un truc, on se dit, mais waouh, là, on a l'impression que c'était, on pouvait pas plus, quoi. Mais c'était du moment, c'est-à-dire qu'on sait bien que, voilà, après on reprend le chemin pour accéder à encore plus. Alors, Père Jor, tout à l'heure m'a dit que peut-être certains d'entre vous ne connaissaient pas Maldon, parce que j'ai parlé de Maldon. Donc, ceux qui ne savent pas qui est Maldon, si tu veux en parler peut-être plus que moi. Donc, c'est un monastère en Angleterre. Le monastère Saint-Jean-Baptiste, oui, vas-y.
C'est un monastère en Angleterre qui a été fondé par Père Sophroni, qui était le disciple de Saint-Sylvain, qu'il a rencontré dans son enfance. Et Saint-Sylvain avait dit à Père Sophroni, ben après ma mort, tu pourras faire connaître mes écrits. Et donc, Père Sophroni a quitté le Moïtos.
C'est trop.
Après y être resté quelques années après la mort de Saint-Sylvain, il est rentré en Europe. En Angleterre, ouais. Qu'il connaissait déjà avant d'être moine, et il a fondé son monastère, qui est un monastère très particulier. D'abord, c'est un monastère à la fois des moines et des démoniales. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règle écrite. Quand on arrive au monastère, on ne sait pas où il faut aller. Il n'y a pas marqué entrée, accueil, etc. Enfin, c'est
très atypique.
C'est très atypique et c'est très prenant.
Ouais, c'est extraordinaire. À ne pas rater. Si vous voyez la flèche, monastère Saint-Baptiste, vous y allez. Quoi. C'est le paradis là-bas. Mais ça travaille, hein, je peux vous dire. Bon, voilà, on va faire la pause.
Est-ce que tu nous donneras des références, enfin, où les pères ont donné des renvois vers la...